Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir, Christine Goémé, les cours du Collège de France. Pour son dernier cours annuel au Collège de France, Denis Knoeffler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques, se penche sur la figure illustre de l'empereur Hadrien et notamment sur ses rapports avec les cités grecques. Rendant hommage à la remarquable érudition de Marguerite Yourcenar, qui lui a permis d'écrire ses fameuses « Mémoires d'Hadrien », il nous propose de suivre la romancière et se propose de confirmer, de compléter ou de corriger ces informations à la lumière d'un demi-siècle de découvertes épigraphiques. Dans les premiers cours que nous avons pu entendre cette semaine et que vous pouvez retrouver sur le site du Collège de France, Denis Knoeffler a rappelé ce que nous pouvons savoir de la formation du jeune homme Hadrien, de sa naissance à Italica en Espagne en 76 et de son éducation à Rome puis à Athènes auprès du rhéteur Isée. Hadrien découvre la poésie et la lecture. « Mes premières patries ont été les livres », lui fait dire Marguerite Yourcenar. On a suivi ensuite ses premiers pas dans le cursus honorum et ses premières expériences militaires jusqu'à son adoption par Trajan puis son accession au trône impérial en 117. Hier, Denis Knoeffler a abordé un nouveau chapitre de la vie d'Hadrien. Les années 124, au cours desquelles l'empereur réside à Athènes et voyage en Grèce. « Je m'installais à Athènes comme un homme rentre au foyer », lui fait dire Marguerite Yourcenar. « J'osais toucher à cette beauté, essayer de faire de cette ville admirable une ville parfaite. » Denis Knoeffler aborde la tournée des cités qu'Hadrien a effectuée en Béotie à la fin de l'année 124 et observe que ce voyage est absent des mémoires d'Hadrien, très vraisemblablement, dit-il, parce que les sources accessibles à Marguerite Yourcenar n'étaient pas suffisantes ou trop difficilement accessibles. C'est donc à partir d'un corpus renouvelé et enrichi de nombreuses inscriptions que Denis Knoeffler nous rend compte de ce voyage en Béotie, allant jusqu'à nous en proposer une restitution précise. Écoutez.
En réalité, il est un épisode béotien que l'auteur des mémoires ne pouvait pas manquer d'évoquer. C'est l'excursion à Thespie qu'implique une célèbre dédicace d'Hadrien au dieu Eros. Inscription trop originale pour être laissée de côté par un écrivain dont le propos est justement de mettre le voyage en Grèce sous le signe de l'amour inspiré à l'empereur par le jeune Antinous. Très habilement, elle a donc fait de cette courte péripétie en terre béotienne comme une sorte d'annexe à la grande tournée péloponnésienne de l'automne 124. Arrivé à Corinthe, Hadrien aurait présidé avec faste religieuse isthmique, concours dit triétérique, parce que célébré périodiquement au retour de la troisième année, donc tous les deux ans, en fait. J'espérais, en rétablissant ces grandes fêtes panhelléniques, dit le mémorialiste, page 166, refaire de la Grèce une unité vivante. Le projet prêté à Hadrien n'est nullement absurde, on l'avait vu, même si, en l'occurrence, il faut se garder d'exagérer l'état de déliquescence où la vie agonistique serait tombée en Grèce avant la reprise en main opérée par ce prince. Pour les Isthmiens eux-mêmes, en effet, on a la preuve épigraphique qu'ils eurent régulièrement lieu sous Domitien et sous Trajan en association avec les Caesareia instaurés dès l'époque d'Auguste. Mais ce qui nous intéresse d'abord ici, c'est la suite du texte des mémoires, sans transition en effet. Hadrien est censé relater son excursion sur l'autre rive du golfe de Corinthe, encore que le lecteur pourrait ignorer ce changement de décor. Des chasses nous entraînèrent dans les vallées de l'Hélicon, dorée par les dernières rousseurs de l'automne. Assurément, au point de vue de la chronologie, cette affirmation ne laisse pas d'être un peu problématique, puisque, compte tenu justement du rythme triétérique des Isthmia, il n'y eut pas d'édition du concours en 124, mais seulement en 123 et 125. Or, à supposer qu'il eût présidé les Isthmiens, vers la fin de l'été 125, Adrien aurait été obligé de s'embarquer ensuite au plus vite pour l'Italie, où l'on sait qu'il se trouvait dès le début de septembre. Ce qui mérite néanmoins d'être relevé dans ce passage des mémoires, c'est l'idée de mettre ainsi Corinthe en communication directe avec le pays de Thespie, car cela correspond à une réalité historique bien attestée, y compris pour l'époque antonine. Marguerite Yourcenar n'avait sans doute pas lu, encore que de sa curiosité on puisse tout attendre, le mémoire de 1946 où Louis Robert faisait clairement apparaître que dans un catalogue de vainqueurs au concours athlétique des Erotideia de Thespie vers 100 après Jésus-Christ, bien des concurrents étaient précisément des Corinthiens appartenant aux meilleures familles de la colonie romaine. À travers le Golfe, écrivait ce savant, Hellenica II, les deux villes étaient, peut-on dire, limitrophes. De l'Écaïon, on était vite au port de Thespie, Creusis. C'est pourquoi les Corinthiens ont été si assidus aux fêtes de Thespie. Fin de la citation. Pour ce qui est des concours de Corinthe, tels qu'ils étaient célébrés sous Adrien, c'est le lieu de signaler l'existence d'un catalogue corinthien daté avec certitude de l'année 127, donc bien peu après que l'empereur eut quitté la Grèce pour l'Italie. Ce document, publié en 1970, fournit en effet le programme complet, c'est-à-dire à la fois musical, gymnique, hippique, d'un concours appelé Caesareia, distinct certes des Isthmia, mais organisé sans doute en supplément de cette fête une fois sur deux. Si la section musicale est mise en tête, c'est qu'elle comportait des épreuves d'encomiographie, c'est-à-dire d'éloges, d'abord en vers, puis en prose, non seulement eis Adrianon, mais aussi pour ses deux prédécesseurs immédiats, Nerva et Trajan. On verra d'autre part, dans une leçon ultérieure, que les nouvelles lettres d'Adrien découvertes à Alexandrie de Troade apportent leur lot d'informations sur la place que les Isthmiens occupés alors dans le calendrier agonistique voulu par l'empereur. Marguerite Yourcenar n'a donc pas été si mal inspirée que cela en imaginant une traversée du golfe de Corinthe à l'occasion du concours de l'Isthme. Mais ce voyage impérial, s'il a réellement eu lieu en 125, seule date possible, dut se faire du continent vers le Péloponnèse bien plus tôt qu'en sens inverse. On pourrait ainsi le placer vers la mi-été avec un embarquement au port de Delphes, juste avant la grande traversée vers l'Italie. D'autre part, comme déjà Weber, pourtant peu enclin à faire une place aux sentiments, l'auteur des mémoires a pris le parti, ou disons mieux la liberté, de donner un caractère très personnel, pour ainsi dire intime, à cette excursion d'Adrien en pays béotien, qu'il aurait effectuée dans la plus totale Zwangslosigkeit, c'est le mot de Weber, en dehors de toute contrainte donc politique ou autre, l'escorte de l'empereur se réduisant au seul Antinous, dont la présence, comme en filigrane, ressort des mots déjà cités et de ceux qui suivent. Des chasses nous entraînèrent dans la vallée de l'Hélicon, nous fîmes halte au bord de la source de Narcisse, près du sanctuaire de l'amour, la dépouille d'une jeune ourse, trophée suspendue par des clous d'or à la paroi du temple, fut offerte à ce dieu le plus sage de tous. Page 166, on l'aura relevé au passage, l'Alexandrin final en deux hémistiches. C'est donc un instant de grâce pour l'empereur, censément amoureux, que cette consécration à Eros, d'un gibier peu banal, à une époque où tout semblait facile, dira-t-il plus tard en évoquant globalement cet apogée de son règne. De fait, il s'agit, on le sait, d'une épigramme très savamment composée qui peut donner de prime abord l'impression d'être l'œuvre d'un empereur en vacances. Dans les carnets de notes des mémoires, Yourcenar fait cependant un rapprochement intéressant entre deux moments du séjour en Grèce qui ont pour dénominateur commun justement d'être liés à la rédaction d'une épigramme. Il est vrai que dans le premier cas, à savoir, on s'en souvient, la stèle érigée par Adrien sur la tombe d'Épaminondas à Mégare, on ne conserve plus du poème qu'une simple mention chez Pausanias, en attendant qu'une heureuse découverte nous restitue peut-être un jour cette inscription. Pour Thespis, c'est l'inverse qui s'est produit. La pierre s'est miraculeusement conservée intacte jusqu'à nous, tandis que le périégète ne souffle mot de l'épigramme d'Adrien. Car il a visiblement préféré faire le récit des malheurs de la statue d'Héros sortie des mains de Praxitèle, arrachée du sanctuaire sur l'ordre de Caligula, rendue par Claude au Thespien, victime à nouveau de la convoitise de Néron et disparue à jamais à Rome, où elle fut en 81 sous Titus, donc la proie d'un incendie accidentel. Adrien Thespis n'a donc pu voir qu'une copie de cette divine statue, un Héros dû à l'artiste athénien Ménodoros, sculpture qui a trouvé grâce aux yeux de Pausanias, mais dont on ne trouve pas la moindre mention, en revanche, chez Yourcenar, qui s'est également gardé d'évoquer, ne serait-ce que par une phrase allusive, les vicissitudes, l'original praxitélien. Mais il est temps d'examiner de plus près ce petit morceau. L'un des monuments épigraphiques les plus curieux, à n'en pas douter, de tout le Principat. Soulignons d'abord la forme très élaborée, du point de vue de la métrique, de ces 8 indécasyllabes glyconiens, un maître dont l'empereur lettré trouvait le modèle en maintes compositions hellénistiques et latines aussi, Catulle par exemple, de la meilleure facture. L'auteur y apparaît sous son nom seul de Adrianos, sans aucun élément de sa titulature. L'objet de la dédicace est la dépouille d'une ours, Arctos, sa tête plutôt que sa peau, offerte en prémisse, sens du mot acrotignon. Animal que l'empereur avait abattu lui-même, Autos, du haut de sa monture hippotène. Pour ce qui est du pays où se déroula cette chasse, l'hésitation a été grande depuis la publication de l'épigramme à la fin du XIXe siècle. Et l'édition de base qu'en a donnée le très sagace Wilhelm Dittenberger, qui balançait déjà entre deux possibilités. En 1978, traitant de la passion bien connue d'Adrien pour la chasse à propos d'une inscription d'Adrianoï en Asie mineure, Louis Robert écrivait ceci. J'ai préparé depuis longtemps un mémoire sur cet épigramme, depuis le temps lointain où je l'exposais dans un cours, c'est-à-dire ici même, ou à peu près. Je n'ai pu me décider entre les deux interprétations. Consécration à Thespis de la tête de l'ours tué en Mysie, ou, comme l'ont admis la plupart des éditeurs, le plus souvent sans étude précise, ours tué sur l'Hélice. Fin de la citation. Naturellement, après un tel aveu de notre maître, que cette perplexité, hélas, retint de publier son mémoire, je ne prétendrai pas trancher le dilemme avec assurance. Il me paraît néanmoins bien improbable que l'empereur ait tenu à faire transporter cette dépouille, même soigneusement traitée, depuis les fins fonds de la forêt mysienne jusqu'à Thespis, en passant par Éphèse, les îles, Athènes et le Péloponnèse, alors que plus d'un sanctuaire d'Artémis lui aurait offert en chemin la possibilité de la consacrer dignement à la grande chasseresse Artémis. Admettre le contraire ne reviendrait-il pas à penser que le sanctuaire d'Héros à Thespis avait une telle renommée sur le plan synergétique que le choix en faveur de cette divinité s'imposait absolument, quelles que fussent les difficultés pratiques de la conservation et du transport. Or, rien n'indique que tel fut le cas. Il semble donc raisonnable de renoncer à la Mysie, puisque l'épigramme n'interdit pas, loin de là, de songer à une chasse pratiquée en Béotie même. Tout n'est certes pas réglé pour autant. Pourquoi Adrien, en excursion dans le pays thespien, fait-il le choix du petit Héros, dieu des élans amoureux en principe, comme divinité idoine à recevoir la dépouille d'un animal tué peu auparavant. Il faut écarter, je crois, la solution à première vue la plus aisée, celle qu'a retenue en fait Marguerite Yourcenar, qui consiste à expliquer la chose par un simple rapport de voisinage. La vallée de l'Hélicon, théâtre de la chasse, aurait été voisine de la source de Narcisse, elle-même située, dit l'auteur, près du sanctuaire de l'amour. Car en fait, le Hieronderos n'était nullement un sanctuaire campagnard. Cela ressort très clairement de la description de Pausanias, qui le localise sans ambiguïté en pleine ville de Thespie, livre 9, chapitre 27. Là où avait lieu également, on le verra encore, la fête en l'honneur du petit Eros, les Erotideia. Quand donc, au vers 2 de l'épigramme, s'adressant à ce dieu, Adrien écrit « Thespiais heliconiaisi naion ». Il ne faut pas traduire, comme l'a fait l'auteur du choix d'inscription grecque, par « toi qui habites à Thespie sur l'Hélicon », mais évidemment, toi, l'habitant de Thespie héliconienne, c'est-à-dire dans cette ville toute voisine de la fameuse montagne des Muses, à Thespie, au pied de l'Hélicon, si l'on veut, sans connotation géographique trop précise. On relèvera au surplus que l'inscription n'a pas été trouvée, comme tant d'autres pierres thespiennes, dans le vallon des Muses, mais remployée dans un village abandonné du nom de Tatezza, à l'ouest du site archéologique de Thespie. Intégrée sans doute dans un mur, cette plaque intacte, avec son joli cadre mouluré, doit donc provenir du sanctuaire d'Eros, situé en ville même. Mais objectera-t-on peut-être, la mention du jardin fleuri de Narcisse au vers 3, Narcissou parakepon anteonta, n'évoque-t-elle pas un paysage agreste justifiant en quelque sorte la relation topographique adoptée dans Mémoire d'Adrien? Il faut noter cependant que l'empereur n'entend nullement établir un rapport de proximité entre le domicile d'Eros et le jardin de Narcisse. Le dieu, Eros, est dit habiter Thespie, cette ville des muses héliconiennes, qu'a rendu célèbre aussi le mythe de Narcisse, puisqu'à cette époque, Narcissos était regardée comme thespieuse, thespien. Pausanias assurément situe la métamorphose du malheureux jeune homme au bord d'une source, Pégée, que l'on montrait encore de son temps, dans le territoire de Thespie, à la campagne donc. Mais pour Conon, un auteur plus ancien, cet épisode a pour théâtre la ville même de Thespie et une fontaine construite, Crénée. Adrien n'entend nullement prendre parti entre ces diverses versions, bien sûr. En tout cas, il ne dit pas que la consécration ait été faite au jardin fleuri de Narcisse. Sur ce point, je m'écarterai assez résolument de la formulation retenue par Louis Robert. L'intention de l'auteur, c'est encore une fois de rappeler à ses lecteurs qu'Eros et Narcisse sont du même pays. On sait aujourd'hui que la véritable patrie de Narcisse, si j'ose dire, est en réalité Érétrie en Eubée, mais je ne veux rien dire ici de cette question dont j'ai traité ailleurs dans un petit livre connu de certains d'entre vous. Ce serait toutefois faire injure au poète érudit qui était Adrien de penser que la mention de Narcisse était ici purement décorative. Au contraire, elle est d'une importance sans doute fondamentale pour l'exégèse même de l'épigramme, car, justement, c'est Narcisse, héros chasseur par excellence, qui relie Eros au monde de la chasse. Je n'insiste pas sur les aspects cinégétiques bien connus du mythe, puisque c'est au terme d'une chasse, évoquée aussi bien par Ovide que par Pausanias, sans parler de l'iconographie qui montre le héros assis, tenant une lance ou parfois debout près d'une statue d'Artémis, que Narcisse vient se reposer auprès de la source fatale. D'ailleurs, dans la version eubéenne, Narcitos est fils d'un cunégos, d'un meneur de meute, au service de la grande Artémis d'Amarintos. Il est là un héros au sens le plus fort du terme, une divinité qui est l'objet d'un culte, tandis qu'à Thespie, il y a comme concurrence, du moins originellement, entre le beau Narcisse, contempteur d'Eros, Hyperoptes Erotos, et l'enfant d'Aphrodite. Après le suicide du héros malheureux, lit-on chez Conon, les Thespiens constatant la puissance invincible d'Eros, vénérèrent bien davantage encore leur dieu national. De fait, il n'est pas interdit de voir dans cette version du mythe un récit étiologique destiné à rendre compte de l'accroissement du culte d'Eros à la basse époque hellénistique, quand justement fut créé le concours des Erotideia pour célébrer, croirais-je, le retour de l'Erotidion, la chère petite statue de Praxitèle, en 86 avant notre ère. À Thespie donc, Adrien ne pouvait offrir, revenons à ce texte, que le produit de sa chasse qu'au dieu Eros. C'est d'Eros l'avisé, Saufrone, lira-t-on peut-être avec surprise dans l'épigramme, le plus sage des dieux, renchérit l'auteur des mémoires, que l'empereur attend une grâce supérieure en échange, Carine Antitou, de l'offrande qu'il lui fait de cet ours tué lors d'une chasse au pays fleuri de Narcisse, dans ce massif de l'Hélicon que Pausanias décrit comme une espèce de parc naturel, Kepos, cohabitaient les espèces végétales et animales les plus rares. Le petit Eros exerce un pouvoir d'autant plus étendu qu'il est en relation privilégiée avec une divinité cosmique, étant le fils, ou peut-être mieux le serviteur, Païs de Cypris, la grande et primordiale Aphrodite de Chypre, qui est dite sonore, ligeia, par Adrien, parce qu'elle tient sa partie dans l'harmonie concertant des sphères célestes, ainsi que l'écrit fort justement le professeur Paul Gukowski dans une étude de 2002, en s'appuyant, comme il convient, sur l'épiclèse uranienne donnée à Aphrodite au dernier vers du poème « Uranias Aphrodites ». Par le truchement des roses, donc, la prière de l'empereur s'adresse à une divinité qui régit l'univers tout entier. Pas l'Aphrodite Pandemos, la déesse honorée par les prostituées sacrées de Corinthe. Mais faut-il aller jusqu'à déceler, dans la prière adressée à ce divin enfant, un appel d'Adrien à l'âme d'Antinoüs passée dans un corps céleste après son apothéose en l'an 130, comme le propose avec conviction notre savant confrère. J'avoue être d'autant plus réticent face à cette interprétation maximale qu'elle obligerait à dater l'épigramme des dernières années d'Adrien et romprait ainsi tout lien avec le passage très vraisemblable de l'empereur à Thespie en l'an 125, alors qu'au contraire, la documentation épigraphique plaide aujourd'hui pour faire de la chasse à l'ours au creux des vallons fleuris de l'Hélicon une étape du voyage en Grèce centrale au printemps de cette année-là. Il est vrai que les nombreuses dédicaces à Adrien recueillies à Thespie ne sont pas exactement datées, mais elles prouvent à tout le moins que l'empereur dut faire un peu plus à l'égard des Thespiens que de se livrer dans leur territoire au plaisir d'une chasse solitaire. Il est a priori vraisemblable, en effet, qu'Adrien ne dédaigna pas les deux grands concours que célébraient toujours avec éclat les gens de cette cité, les Mouséia et les Erotideia précisément. On en a du reste un indice épigraphique plus que probant, puisque un catalogue de vainqueurs trouvé dans le vallon des Muses fait mention du concours qui était célébré sous le nom de Traianeia, Adrianeia, Sebasteia, Mouséia. Deux des épreuves concernaient directement le prince, un éloge en prose d'abord, puis un hymne en vers pour l'empereur Eiston Autokratora. Certes, ce document doit dater déjà des années 140-150, donc du principat d'Antonin, mais précisément l'absence de l'adjectif Antoneina dans l'intitulé du concours prouve que l'on n'y ajoutait pas automatiquement le nom de l'empereur régnant. Lors de son passage, Adrien a dû promouvoir d'une manière ou d'une autre la célébration des Mouséia, dont le programme musical, établi dès la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, pouvait servir comme modèle à des créations d'époque adrianique, comme les Démosthénéia dans la lointaine Oinoanda en l'an 124, justement. Adrien ne se montra sans doute pas moins généreux pour le concours athlétique des Zerotideia, qui, à l'époque impériale, était souvent présidé par le même agonothète, comme l'atteste par exemple cette inscription honorifique pour un certain Athanias, fils d'Euxénos, qui exerça la présidence des Museia Sebasta comme des Erotideia Caesarea, car l'organisation de tels concours entraînait des frais considérables que seuls de rares évergètes locaux pouvaient assumer. Mais les deux fêtes n'en restaient pas moins bien distinctes, sauf cas exceptionnels, comme peut-être l'annonce d'une arrivée prochaine de l'empereur qui aurait pu amener les Thespiens à les célébrer successivement dans un bref intervalle. Rien n'est plus évocateur, en tout cas, de l'atmosphère qui régnait lors de ces fêtes que le préambule du dialogue sur l'amour, composé par Plutarque au début du règne d'Adrien. Récit plein de charme, dont on s'étonne presque que Marguerite Yourcenar n'ait pas cherché à exploiter quelques éléments pour donner un peu plus de consistance au passage de l'empereur en pays thespien. La première phrase du dialogue a bien souvent trompé les lecteurs sur le déroulement des Erotideia. « Oui, Flavien, dit-on, en effet, ce fut à l'Hélicon, auprès des muses, Parataïs Moussaïs, au moment où les Thespiens célébraient les Erotideia, une appellation qu'il vaut mieux ne pas traduire par la fête de l'amour, comme s'il s'agissait d'une Saint-Valentin avant la lettre. Cette fête, poursuit l'auteur, ou plutôt son traducteur français, qu'il célèbre tous les 4 ans, à la fois en l'honneur des muses et des Ross, avec beaucoup de zèle et de magnificence. Une telle traduction induit assez gravement en erreur, puisqu'elle donne l'impression qu'il y avait sur l'Hélicon une fête double, à la fois pour les 9 muses et pour Eros. Or, ce que Plutarque veut dire, c'est que les Thespiens organisent pour Eros un concours quadriennal, donc très important, comme ils le font aussi de notoriété publique pour les muses de l'Hélicon. Car les Erotideia, en réalité, ont lieu en ville, cela est clair pour qui lit la suite. Plutarque y relate en effet une excursion que ses propres parents, peu après leur mariage, firent depuis Chéronée jusqu'à Thespie pour sacrifier à Eros au moment de la fête de ce dieu Eisten et Orten, et pour y rencontrer des amis venus de toute la Béotie. Tous ces gens, poursuit l'auteur, passèrent les 2 ou 3 premiers jours en ville, Catapoline, en discutant agréablement dans les palestres et les théâtres. Mais vint un moment où l'agitation liée aux différentes épreuves du concours rendit tout dialogue impossible. Alors, dit Plutarque, la plupart battirent en retraite comme pour sortir d'un territoire ennemi, Osperec Polemias, et allèrent camper sur l'Hélicon auprès des muses Parataïs Moussaïs. On a donc affaire à 2 concours que tout distingue, le lieu, le calendrier et aussi le programme, car c'est à tort que l'on dit et répète à l'envi que les Erotideia comportaient non seulement des épreuves gymniques et hippiques, les seules à apparaître dans les catalogues conservés, mais aussi des épreuves musicales, sous prétexte que pendant toute la durée de la fête en ville, la musique avait évidemment son rôle à jouer. Pausanias, du reste, fait bien cette distinction entre les œufs agonès thespiens, quoique les éditeurs lui aient fait dire ici aussi le contraire de ce qu'il affirme avec netteté en 9-27. Les thespiens, lors des Erotideia, donnent des prix aux athlètes, athlétais, comme ils en donnent aussi aux musiciens, musikois, lors des Museia. Car dans le texte grec, il faut lire à l'évidence musikois, non pas musikes, prononcé d'ailleurs de la même manière, musikis, à cette époque, comme j'ai essayé de le montrer naguère, sans beaucoup de succès jusqu'ici. Bref, on voit combien les fêtes de Thespie étaient faites pour susciter l'intérêt de l'empereur Philhellène. Son passage dans cette cité, en l'an 125, non pas 124, a donc dû être beaucoup plus qu'une simple escapade à partir du Péloponnèse. Ce fut sans doute une étape majeure dans sa tournée des cités de la Grèce centrale. La reconstitution de ce voyage repose aujourd'hui sur 2 piliers épigraphiques. Le premier est constitué par la série de lettres d'Adrien à la cité de Delphes, découvert dans les vestiges même du temple de Delphes lors de la grande fouille de la fin du XIXe siècle. Ce dossier est demeuré longtemps réservé aux seuls spécialistes. On ne saurait guère reprocher à Marguerite Yourcenar, malgré tout son zèle, de n'avoir pas lu la thèse latine d'Émile Bourguet, De rebus Delphicis imperatoriae aetatis, soutenue en 1905. En fait, ces inscriptions mutilées n'ont été rendues accessibles aux historiens, et encore, qu'à partir de l'édition d'André Plassard en 1970 dans les Fouilles de Delphes, et ce n'est que fort récemment que des traductions en ont été proposées. Cela explique assez que l'auteur des mémoires n'ait rien dit ou fait dire sur les affaires redoutablement complexes qui agitaient alors l'amphictyonie piléo-delphique, problèmes sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir aujourd'hui. On rappellera seulement que dans sa longue lettre, l'empereur signifiait clairement aux Delphiens qu'il attendrait d'être chez eux pour régler plusieurs points en suspens. « Je déciderai de tout cela à Delphes, peripanton, touton, en Delphois, diagnosomai », écrit-il notamment aux lignes 23 et 24. Donc, à la date de ce document, qui est sans nul doute l'année 125, 9e puissance tribunicienne, le voyage au sanctuaire pythique était déjà programmé et l'on ne saurait douter que ce plan fût exécuté puisque les jours passés par l'empereur à Delphes furent plus tard mis au nombre des jours sacrés, Emeras Hieras, de la cité, comme cela ressort d'une inscription bien fragmentaire. En revanche, et c'est évidemment fort regrettable, on ignore de quel endroit cette lettre sur les affaires amphictyoniques a été expédiée. Ce fut peut-être depuis Athènes, où l'empereur de fait se trouvait encore vers la fin de l'hiver 124-125. On pourrait cependant aujourd'hui songer, avec au moins autant de vraisemblance, à la Béotie, puisque l'on y connaît désormais une série de lettres impériales, dont les plus anciennes remontent précisément à l'année 125. Je veux parler, et certains ici le savent, du dossier de Coroné de Béotie, dont l'objet, pour une large part, est la mise en valeur de terres cultivables menacées par les crues de plusieurs fleuves se jetant dans le lac Copaïs. Si Marguerite Yourcenar avait pu soupçonner l'existence de ces documents, elle en eût tiré à coup sûr quelque chose. Dans les pages où elle évoque le goût d'Adrien pour les grandes entreprises de génie civil ou militaire, fortifications, aqueducs, routes, digues, tous ces travaux qui ont pour dénominateur commun de trouver, dit-il, la ligne sur laquelle une berge ou un empire peut être défendu, le point sur lequel l'assaut des vagues ou celui des barbares sera contenu, arrêté, brisé. Page 134. Certes, si je vois bien, elle est muette sur le creusement d'un fleuve émissaire pour les eaux du lac Fucin, Lago Fucino, au cœur de l'Italie, opération dont pourtant l'histoire auguste faisait une mention très rapide. Mais c'est peut-être parce que l'essentiel dans ce cas-là avait été déjà réalisé par l'empereur Claude, comme le rapporte en détail Suétone et Tacite, affaire qui avait d'ailleurs failli tourner au désastre. Mais venons-en aux inscriptions de Coroné. Une plaque en deux morceaux, copiée dans un village situé justement en bordure de ce lac Copaïs, à mi-chemin de Coroné et d'Orchomène, avait fourni dès 1880 deux lettres de l'empereur Antonin. La première n'était certes qu'un bref message en réponse aux condoléances, en même temps qu'aux félicitations par lesquelles les gens de Coroné, avec ce sens des convenances caractéristiques des Grecs, « preponta eleisin anthropois », relève Antonin, avait salué l'avènement du nouvel empereur à la mort d'Adrien en juillet 138. Cette réponse flattait évidemment l'amour-propre des Coronéens. Mais dans la seconde lettre, nettement plus substantielle, et d'ailleurs bien postérieure, Antonin leur communiquait sa décision concernant un conflit territorial entre Coronée et sa voisine méridionale Thisbé sur l'autre versant de l'Hélicon, conflit sur lequel Adrien s'était prononcé autrefois dans une lettre que le nouvel empereur citait en partie sans en indiquer la date précise. Un autre fragment, appartenant au même ensemble, fut copié par le très diligent épigraphiste allemand Lolling, au lieu dit Ponza, dans les ruines d'un monastère assez proche du site de Coronée. L'endroit lui livrait aussi diverses bases impériales, dont deux pour Adrien, mais malaisées à exploiter sur le plan historique. Or, c'est là précisément qu'une génération plus tard, en 1919, l'archéologue Nikolaos Papadakis devait découvrir quatre grandes plaques ou carreaux de marbre portant, dans la même gravure exactement, d'autres lettres du dossier de Coronée. Mais ce savant mourut en 1942 sans avoir eu la possibilité de faire autre chose que de signaler sa découverte, dont le souvenir même s'estompa durant les années de la guerre et de l'après-guerre, si dramatique pour la Grèce. Une première redécouverte, non suivie d'effets, eut lieu vers 1950, puis une seconde en 1970, mais qui généra 10 ans durant un conflit de propriété scientifique, ce qui explique en partie que la première édition n'en ait été donnée qu'en 1982, dans un article du reste incomplet et assez médiocre, alors qu'un tel dossier eût mérité de faire l'objet d'un beau livre. On comprend ainsi pourquoi l'auteur des mémoires n'eut pas connaissance de ce dossier, qui l'aurait à coup sûr intéressé. Car c'est d'Adrien qu'émanait près de la moitié de ses lettres impériales, adressées le plus souvent à la cité de Coronée. Deux de ces lettres dataient de la 9e puissance tribunicienne, donc de 125 exactement, comme celle de Delphes, sur l'Amphictyonie. Tandis qu'au moins une était de 10 ans postérieure, écrite seulement en 135. L'objet initial de cette correspondance administrative se révélait être une opération destinée, on l'a suggéré, à mettre un assez vaste territoire à l'abri des inondations provoquées par les crues de 3 cours d'eau, le Phalaros, l'Erkina et le Kephissos, qui se jettent dans le lac Copaïs, Eisten Copaïda Limnen Embalousin, comme le précise la première inscription. Cette appellation même est notable car il ressort des témoignages de Strabon et de Pausanias encore que le lac, dans sa partie occidentale, portait plutôt le nom de Kephissis, tandis qu'il s'appelait Aliartis au sud-est. Si donc, dès l'époque d'Adrien, le nom Copaïs, tiré de la petite ville de Copaï à l'autre extrémité du bassin, s'appliquait officiellement à l'ensemble de la zone lacustre ou palustre, cela pourrait signifier que ce lac, asséché vers la fin du XIXe siècle seulement, se présentait alors, à la mauvaise saison du moins, comme une vaste surface aquatique occupant tout le bassin. La plus ancienne des lettres conservées montre clairement que l'empereur s'entretint avec des experts en questions hydrauliques, des épistémones, pour évaluer le coût et l'efficacité des travaux qu'il entendait mener. Une chose paraît claire, c'est que l'opération était délicate, puisqu'en 135 encore, donc vers la fin de son règne, Adrien devait annoncer aux Coronéens qu'il avait confié à un haut personnage, qualifié par lui d'illustre ami, Tocratistophilo, selon l'usage, le soin d'aller examiner sur place l'état des travaux d'endiguement du Phalaros. Or, ce consulaire, Lucius Aemilius Juncus, est bien connu par des documents d'Athènes et de Sparte, et il se trouve mieux connu encore depuis qu'une inscription de Delphes, publiée en 1937, a fait connaître son titre de Diortotestone Eleuteron Poleon, démon, pardon, c'est-à-dire de corrector liberarum civitatum, dans la province d'Achaïe, sans qu'il en ait été pour autant gouverneur. Ce qu'ont bien montré nos collègues parisiens Jean-Louis Ferrari et Denis Rousset en rééditant l'inscription de Delphes en 1998. Mais la lettre d'Adrien à Coronée n'en a pas moins un très grand intérêt pour la carrière d'Aemilius Juncus, puisque c'est elle qui a fourni le point d'accrochage le plus solide sur l'année 135 pour dater la mission en Grèce de ce haut magistrat. D'autre part et surtout, le dossier béotien nous a appris une chose jusque-là complètement ignorée, c'est que les Coronéens jouissaient alors du statut enviable de cité libre, alors que leur premier contact avec Rome en l'an 171 avant Jésus-Christ avait été tout sauf amicaux. On peut admettre qu'au premier siècle de notre ère encore, la ville n'était pas autonome, puisque en Béotie, Pline l'Ancien ne connaît que deux civitates liberae, à savoir Thespi et Tanagra. De fait, il ressort assez clairement du dossier que ce sont les premiers Antonins qui ont accordé ce statut aux Coronéens. Car, dans la lettre la plus récente, datable de l'année 161, les deux empereurs associés Marc Aurèle et Lucius Verus confirment les privilèges accordés par leurs prédécesseurs, ou plus exactement par leurs progonoi, leurs ancêtres, ce qui ne peut désigner que Nerva, Trajan et Adrien. Or, il me semble aujourd'hui permis de risquer une hypothèse sur le pourquoi de ce changement de statut qui pourrait du même coup rendre compte de la sollicitude très spéciale d'Adrien envers les Coronéens, alors que les cités voisines, Tisbé, Orchomène, les Badées, furent apparemment moins bien traitées, même si les travaux entrepris sur les berges du Copaïs les touchaient directement, ou du moins indirectement, comme on le voit dans le cas de Tisbé. Il ne faut pas oublier en effet que le territoire de Coronée, traversé par la route la plus directe d'Athènes à Delphes, abritait le temple d'Athéna Itonia, divinité tutélaire de l'ethnos béotien, le seul des trois grands sanctuaires fédéraux de l'époque hellénistique à avoir survécu, puisque l'Alalcomenion, tout voisin, à l'est, et le Poseidonion, donc Esto, situé un peu plus loin, mais toujours sur cette même rive du Copaïs, avaient complètement sombré, eux, depuis deux siècles. Or, il y a des indices que l'Itonion connut sous l'Empire un accroissement de prestige à l'échelon de la province d'Achaïe. On connaissait depuis longtemps une base impériale à Mamoura, village qui a livré par ailleurs plusieurs documents provenant, à n'en pas douter, de l'Itonion, lequel, notons-le, reste à découvrir à quelques kilomètres au nord-est de l'acropole de Coronée, mais non pas certes au pied de cette colline, comme a pu le faire accroire l'assurance de l'archéologue qui naguère mit au jour un petit sanctuaire en cet endroit. Or, l'inscription en question sort de l'ordinaire parce qu'elle émane non pas de la cité des Coronéens, ni non plus du Koinon Boyoton, toujours existant, mais d'un ensemble de peuples de la Grèce centrale et du Péloponnèse, formant ce Koinon des Panachéens, à savoir les Achéens proprement dit, les Béotiens, les Eubéens, les Locriens, les Phocidiens et sans doute encore les Doriens ou habitants de la Doride. Depuis plus d'un siècle, on estimait que l'empereur honoré par cette statue était Claude, donc vers 50 après Jésus-Christ. Et comme cette association de peuples semblait n'avoir laissé aucune trace de son existence après la fin du règne de Néron en 68, les meilleurs connaisseurs de la Grèce d'époque impériale en ont conclu que, dès l'époque des Flaviens, une simplification de cette structure s'était faite à l'avantage des seuls Achéens. Or, il y a peu d'années, il m'a été possible de raccorder à ce fragment perdu depuis longtemps un autre fragment de base impériale copié vers 1960 dans ce même village de Mamoura et attribué à l'empereur Nerva par son inventeur, l'épigraphiste américain Kendrick Pritchett. Aujourd'hui, publié, le raccord des deux fragments prouve de façon indubitable qu'en réalité la base était pour Trajan au début de son principat vers 100 de notre ère. À cette date, par conséquent, l'association des Koina de l'Achaïe existait toujours et l'Itonion était nécessairement l'un des lieux où l'on célébrait le culte impérial à l'échelon provincial, au même titre que le sanctuaire de l'Isthme et celui d'Argos surtout. Il me semble donc clair que, sous les Antonins encore, l'Athéna Itonia de Coronée conservait un grand prestige, comme le suggèrent d'ailleurs d'autres indices. Et c'est en liaison avec cela qu'il faut, je pense, mettre l'accession de Coronée au statut de ville libre sous Trajan, déjà très probablement. En tout cas, on peut admettre que cet empereur fut alerté par les Panachéens du danger d'inondation qui menaçait périodiquement le vénérable Itonion, sans parler bien sûr des dégâts faits aux cultures et aux fermes. Arrivé sur les lieux en 125, Adrien ne put que constater la réalité du danger, car, comme l'écrit Pausanias, qui n'a rien su ou rien voulu dire de l'entreprise menée en Béotie par les empereurs de son temps, Sidulafistion, c'est-à-dire de la montagne séparant l'Ebadé de Coronée, on descend en direction du sanctuaire d'Athéna Itonia, on rencontre la rivière Phalaros qui se jette dans le lac Képhysis, chapitre 34 du livre 9. Or, ce Potamos Phalaros est justement, on l'a vu, l'un des petits fleuves coronéens dont l'endiguement commença en 125 et se poursuivait encore en 135, quand il fallut faire appui au consulaire Emilius Juncus pour accélérer les opérations. Concluons cette leçon en esquissant ce qu'a pu être, au vu des données nouvelles, le véritable itinéraire d'Adrien en Béotie. Le plus simple, jusqu'à preuve du contraire, c'est de supposer un voyage depuis Athènes au début du printemps 125. À défaut de pouvoir déterminer par quelle route il entra dans ce pays, le parti le plus raisonnable est de lui faire emprunter depuis Éleusis en Attique, le col du Citeron, en direction de Platée. Rappelons que c'est précisément par là que Pausanias commence sa périégèse béotienne. Lieu de mémoire par excellence, Platée pouvait d'autant moins échapper à l'attention d'Adrien que la ville était toujours le siège du koinon des Hélènes. De ceux d'entre eux, en tout cas, qui pouvaient se flatter d'avoir repoussé l'invasion perse un demi-millénaire plus tôt. On sait que le concours des Eleutheria y était célébré encore, avec le titre d'Aristos Hellénos, le meilleur des Grecs, conféré au vainqueur à la course en armes, comme avait su le démontrer le jeune Louis Robert. Au surplus, une inscription de Delphes, mais hors de doute, l'attachement d'Adrien pour ce sanctuaire, puisque c'est un témoignage de reconnaissance des Grecs qui se réunissent à Platée, oi is plataias suniontes, à l'égard de l'empereur, ayant protégé et entouré de ses soins la Grèce qui lui appartient, ou la Grèce qui lui est chère, toi rousamenoi kai trepsanti ten heautou elada, expression qui n'est point banale. Adrien a pu éventuellement assister à la joute oratoire, ou dialogos, entre Athéniens et Lacédémoniens pour obtenir la préséance pro Pompeia dans la procession vers Platée, rite dont les attestations dans l'épigraphie attique de la seconde moitié du IIe siècle de notre ère ont été utilement réunies par Nicholas Robertson dans la revue Hesperia 1986. On reviendra à propos du fameux Panhellenion créé en 131 sur le modèle que put offrir à Adrien cette association regroupant justement à Platée les plus valeureuses des cités grecques. De Platée, l'empereur ne put manquer d'aller à Thèbes. Certes, la documentation relative à Adrien y est des plus réduites, quelques débris de statues, mais aucune inscription, si je vois bien. Certes, la cité de Thèbes était alors appauvrie, mais elle demeurait un nœud routier de grande importance et surtout l'héritière d'un incomparable patrimoine culturel. Comment Adrien aurait-il pu ignorer la patrie reconnue de deux divinités majeures du panthéon hellénique, Dionysos et Héraclès, Thébae Duorum Numinum, Liberi atque Herculis, ut volunt patria, comme dit Pline l'Ancien, livre 4, chapitre 25. La ville d'Édipe et d'Antigone, la patrie de Pindare, la cité d'Épaminondas, ce héros que l'empereur visiblement chérissait à l'égal de Plutarque, L'épigraphie nous enseignera un jour, on peut y compter, ce que l'empereur a fait pour cette ville dont l'histoire n'était certes pas sans tâche, mais qui ne pouvait laisser indifférent un amateur aussi passionné de littérature et de poésie grecque. De Thèbes, Adrien put se rendre assez aisément à Thespie. Pour atteindre ensuite le Copaïs, il a pu passer par le vallon des Muses et prendre la route permettant de rejoindre Aliarte, une ville à propos de laquelle il aurait pu dire, de façon plus pertinente encore que pour Corinthe, que la trace de nos crimes restait partout visible. Car il ne pouvait se méprendre, à la différence du trop naïf Pausanias, sur l'identité des destructeurs d'Aliarte, non pas les Perses en 480, mais les Romains en 171. Il est exclu, en tout cas, que la cité d'Aliarte lui ait élevé une statue, ainsi qu'on l'infère aujourd'hui encore, d'une inscription copiée jadis au monastère d'Evangelistria, qui est une douzaine de kilomètres dans la montagne, mais qui émane, cette inscription, à coup sûr, d'une autre cité. Une fois parvenu sur les rives du lac, Adrien se serait dirigé en droite ligne vers l'Itonion et y aurait séjourné, sans doute un certain temps, à Coronée, pour y discuter des travaux à entreprendre. Un passage par l'Ebadé, pour ainsi dire assuré, non pas tant à cause d'une base de statues élevée par les Lébadéens et trouvée à Platée, donc sans doute en rapport avec les Eleutheria, mais parce que cette ville, très bien aménagée au dire de Pausanias, était en passe de devenir la plus populeuse de toute la Béotie. Et il y avait l'oracle de Trophonios, dont la renommée était alors très considérable. Certes, on voit mal les serpents gorgés de lait venant se frotter aux chevilles d'Adrien, comme l'imagine l'auteur des Mémoires. Mais l'empereur aurait pu, remontant par la gorge de l'Erquina, rivière qu'il mentionne dans l'une de ses lettres à Coronée, atteindre l'entrée qui reste à trouver de l'oracle souterrain pour gagner de là le grand temple inachevé de Zeus Basileus. Songea-t-il alors à en reprendre les travaux comme à l'Olympiaion d'Athènes? On l'ignore pour le moment, mais il n'est pas interdit de supposer qu'il favorisa à tout le moins la célébration du grand concours fédéral des Basileia, qui à cette époque n'avait sans doute pas été remplacé encore par celui des Trophonia. À l'Ebadé, Adrien se trouvait à un carrefour. Allait-il monter par la voie la plus directe vers Delphes, une voie, oui, rapide, mais pas nécessairement très aisée, à travers le Parnasse, pour gagner le sanctuaire pythique, où il était attendu, on l'a vu, pour y régler maintes questions. Mais une autre possibilité s'offrait à lui, qu'il convient, me semble-t-il, de privilégier désormais, en le faisant se diriger plutôt vers Chéronée, puis vers Orchomène. On pourrait en effet résoudre le problème de son passage pratiquement assuré, sûr, compte tenu du témoignage explicite de Pausanias, livre 10, 35, par les petites villes phocidiennes d'Abaï et de Iampolis. Au surplus, une visite à Chéronée, ce lieu si célèbre dans l'histoire grecque, lui aurait permis d'aller rendre un ultime adieu au vieux Plutarque. C'est évidemment à tort que la chronique d'Eusèbe fait de ce moraliste le gouverneur de la Grèce sous Adrien. Mais le personnage n'en était pas moins une figure politique très en vue avec son réseau d'amis tant grec que romain. À défaut de voir le philosophe encore vivant, Adrien aurait pu rencontrer son neveu Sextus, dit le Béotien, qui vécut jusque sous Marc Aurèle. Quant à Orchomène, elle n'était assurément plus une ville bien brillante sous les Antonins, même si Adrien et ses successeurs prirent en compte les revendications des Orchoméniens vis-à-vis des Coronéens. Mais quelle gloire entourait le nom de la vieille cité des Miniens ! Il suffit pour s'en convaincre de lire Pausanias, qui va jusqu'à juger avec sévérité les Grecs, admirant sans retenue la construction des pyramides d'Égypte, mais ignorant le plus souvent l'extraordinaire réalisation, dit-il, qu'était le trésor de Minyas à Orchomène. En tout cas, une bonne route de montagne, une Léophoros Odos, reliait Orchomène à Oponte en Locride, en passant justement par les deux cités de Abaï et Diampolis, où Andrien déploya sa générosité pour des travaux édilitaires d'envergure, un temple dans un cas, un portique dans l'autre. Aussi peut-on admettre qu'Adrien visita les Locriens de l'Est, même si à l'heure qu'il est, je le reconnais de bonne grâce, aucun témoignage n'assure encore cette visite. L'hypothèse comporte néanmoins plus d'un avantage. On ferait ainsi définitivement l'économie du voyage d'Adrien depuis la Grèce du Nord jusqu'à Athènes, puisque c'est en venant du sud qu'il aurait traversé la Phocide orientale. D'autre part, en faisant séjourner dans cette ville d'Oponte, qui du reste était réputée pour la bonté de ses lois, œil nomu opoentos, on donnerait à Adrien l'occasion de diverses entrevues avec les députés de peuples du voisinage, qu'il s'agisse de Locriens, comme ces gens de Narica, avec qui il sera en contact à l'extrême fin de son règne, ou de Béens, faisant la traversée depuis Aidepsos, la station balnéaire que fréquentait la bonne société d'alors, et où de fait on a retrouvé une base élevée à Adrien. Mais surtout, chose non négligeable, dans la situation critique que traversait l'Amphictyonie, au témoignage même de la lettre de 125, Adrien aurait pu se rendre aux Thermopyles, visitant ainsi du même coup ce lieu mythique de la bravure des anciens Spartiates, mais aussi le vieux sanctuaire des Pyles, objet de litige, justement, entre les Amphictyons. C'est de là, alors, et tout naturellement, qu'Adrien serait monté vers Delphes en ce printemps de l'année 125.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec Thomas Romer qui nous parlera du livre de l'Exode entre mythe et histoire. Belle journée à tous. À l'écoute de France Culture.